messieurs, je vous laisse suivre à présent la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies avec Félix Prosper Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Merci à Radio Okapi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Okapi, bonjour et bienvenue à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 9 novembre 2016. Au menu de notre rencontre d'aujourd'hui, nous vous ferons part de l'explosion d'un engin qui a éclaté violemment hier matin à Keshero, quartier situé à l'ouest de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu. Nous vous parlerons également de la protection des civils, mais aussi de la lutte contre l'impunité et de la restauration de l'autorité de l'État en Ituri. Nous évoquerons par la même occasion la célébration le 2 novembre dernier de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes et la mission conjointe d'évaluation sécuritaire effectuée par quelques sections de la MONUSCO à Dungu. À mes côtés, Florence Marshall, coordinatrice du groupe de communication des Nations Unies, nous relatera les activités menées par l'équipe pays des Nations Unies durant la semaine écoulée et à partir de Goma, le capitaine Yassine Kassim, porte-parole militaire par intérim de la force, nous gratifiera d'une présentation du tableau sécuritaire qui prévaut dans les différentes provinces du pays. À ses côtés, nous avons aussi le colonel Pierre Hué, le chef des opérations de la force de la MONUSCO qui sera là pour répondre à d'éventuelles questions. Mesdames et messieurs, notez que nos collègues de l'équipe pays sont aussi avec nous dans cette salle et pourront répondre à vos préoccupations. Sans tarder donc, nous démarrons cette conférence de presse en vous annonçant qu'un engin explosif a éclaté violemment hier matin à Keshero, un quartier situé à l'ouest de la ville de Goma dans la province du Nord Kivu, au moment où des casques bleus du bataillon indien de la MONUSCO faisaient leur sport matinal. L'explosion a provoqué la mort d'un enfant et fait plusieurs blessés, dont un civil et 32 casques bleus, parmi lesquels 5 blessés graves reçus à l'hôpital de la MONUSCO. Suite à cet incident, Mamman Sambo Siliku, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, a, à travers un communiqué de presse publié hier soir, présenté ses profondes et sincères condoléances à la famille éplorée et aux habitants de Goma en déclarant, je le cite, « Je réitère par ailleurs mon soutien et ma solidarité aux blessés et à tout le bataillon indien de la MONUSCO. La MONUSCO reste déterminée à assumer sa mission de protection des populations civiles en appui aux efforts du gouvernement de la RDC en vue de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. » Fin de citation. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a condamné l'attaque qui a visé des casques bleus de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Le secrétaire général a également présenté ses sincères condoléances à la famille du civil tué et au peuple congolais et a souhaité un prompt rétablissement aux casques bleus et aux civils qui ont été blessés. Enfin, Ban Ki-moon appelle à une action rapide pour que les auteurs de cette attaque soient traduits en justice. Sans transition, passons maintenant aux activités des composants de la MONUSCO. En effet, à Dungu comme à travers le monde, la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été célébrée le 2 novembre 2016. À cette occasion, les professionnels des médias se sont réunis au quartier général de la MONUSCO Dungu pour discuter des sujets d'intérêt commun. Organisé par la section de l'information publique de la MONUSCO Dungu en partenariat avec le Forum de la presse, cette activité visait à renforcer les capacités des participants, notamment les rédacteurs en chef et les secrétaires de rédaction, en vue d'assurer une bonne maîtrise de la pratique journalistique au quotidien, mais aussi en période électorale. Les échanges ont tourné autour de la problématique relative à la protection des journalistes dans l'exercice de leur métier, notamment lorsqu'ils mènent des investigations sur des sujets à connotation politique et sécuritaire, sujets jugés très sensibles. Le responsable de la section de l'information publique de la MONUSCO Dungu leur a prodigué des conseils pertinents en les exhortant à non seulement se préoccuper de leur propre protection, mais aussi celle des populations pour lesquelles ils travaillent, et surtout à respecter les règles d'éthique et de déontologie de leur profession. Par ailleurs, une mission conjointe d'évaluation composée de différentes sections de la MONUSCO à Dungu, notamment les affaires civiles, l'information publique et les affaires politiques, en plus de la composante police de l'ONU et du chef de la chefferie Wando, s'est rendue le 3 novembre 2016 au poste d'encadrement administratif de Duru, situé à 97 km au nord de Dungu, province du Haut-Uele, escorté par le contingent marocain et avec l'appui logistique de la MONUSCO. Cette mission avait pour objectif, d'une part, de faire une évaluation sécuritaire de la région et tenter de désamorcer un conflit latent sous forme de tensions croissantes entre les réfugiés sud-soudanais et la population locale, et d'autre part, procéder à l'instauration de l'autorité coutumière dans la même contrée. sur un tout autre chapitre. La section des affaires civiles de la MONUSCO à Béni a sensibilisé le 28 octobre 2016 les enseignants et étudiants de l'Institut catholique du Moulot sur le mandat de la MONUSCO et les outils de la protection des civils déployés par la MONUSCO. 60 participants, dont 57 étudiants et 3 enseignants, ont ainsi échangé avec les différentes sections sur les activités de la MONUSCO, notamment le réseau d'alerte communautaire, le système d'alerte précoce et les conseils locaux de sécurité. Les préoccupations des participants ont plus concerné le soutien apporté par la MONUSCO et FRDC dans le cadre des opérations conjointes contre les groupes armés. Ceci a été l'occasion de rappeler l'importance du soutien de la population, notamment au travers du partage précoce de l'information et de sensibiliser les étudiants dans la lutte contre le recrutement d'enfants dans les groupes armés. Dernière information pour aujourd'hui, une activité similaire sera conduite ce 9 novembre 2016 au petit marché de Mayangos à Biokéné, en territoire de Béni, où Radio Okapi inaugurera sa nouvelle antenne ce week-end. La population du territoire de Béni pourra écouter Radio Okapi sur sa fréquence locale de 92.fm. À partir de lundi 14 novembre, les habitants du territoire de Béni pourront écouter de 17h à 17h30 les informations locales sur la fréquence locale de Radio Okapi. Par ailleurs, le public de Béni est invité à participer à l'enregistrement de 2 émissions « Parole aux auditeurs » le samedi 12 novembre et « Okapi Service » le 14 novembre. L'enregistrement de ces émissions aura lieu à la salle Vihoum. Le public est attendu à partir de 9h. Vous aurez plus d'informations dans le verbatim qui sera distribué à la fin de cette conférence de presse. Et tout de suite, je passe la parole à Florence Marchal qui est là à mes côtés pour nous faire le point des activités menées par l'équipe pays. Bonjour Florence.
Bonjour Félix, bonjour à tous. Et puis tout d'abord, je me réjouis que cette conférence de presse puisse être entendue à Kinshasa par tous les auditeurs de Radio Okapi. Alors, le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, le docteur Mamadou Diallo, vient d'allouer 7 millions de dollars américains du fonds humanitaire pour répondre aux besoins de plus de 75 000 personnes affectées par le conflit intercommunautaire entre les Luba et les Twa vivant à Nyunzu, dans la province du Tanganyika. Cette allocation financera les projets de 4 ONG internationales et 3 ONG nationales couvrant plusieurs secteurs, notamment la sécurité alimentaire, la santé, la nutrition, la protection et l'éducation. Les tensions entre les communautés Luba et Twa sont liées à de multiples facteurs, dont l'accès à la terre et aux ressources économiques. Alors un rappel à propos du fonds humanitaire, il a été établi en 2006 à l'initiative des donateurs, dans le but de fournir un financement flexible et rapide en réponse aux besoins humanitaires les plus critiques en RDC. Entre 2006 et 2016, le fonds humanitaire a alloué près de 890 millions de dollars américains qui ont permis de répondre aux besoins d'environ 8 millions de personnes. En 2016, les contributeurs sont la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni via son département pour le développement international, DFID, et la Suède. Les Nations Unies poursuivent leur accompagnement à la réforme de la justice en RDC. Ainsi, la coordination nationale de la police judiciaire vient d'être dotée d'un réseau informatique dans le but d'améliorer le partage des données en temps réel entre les différents services. Il pourrait également faciliter l'interactivité entre la population et la police. Par ailleurs, un guide du policier enquêteur a été mis à la disposition de la police judiciaire. C'est un outil d'instruction et de formation de l'officier de police judiciaire destiné à renforcer ses capacités techniques et opérationnelles. Ces initiatives ont été réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme pluriannuel d'appui à la justice, qui est une initiative conjointe du programme des Nations Unies pour le développement et de la MONUSCO. Dans la perspective de soutenir la stabilisation et le développement de la région du sud Ubangi, le Japon vient de financer à hauteur de 3 millions de dollars américains un projet de réponse rapide en faveur des communautés. C'est ainsi que plusieurs bâtiments viennent d'être construits ou réhabilités. Il s'agit des bâtiments administratifs de 2 secteurs, Zongo et Lua, du palais de justice de Kungu, d'un commissariat du territoire et de 2 marchés locaux à Zongo et Lua. Les infrastructures réhabilitées sont le bâtiment de secteur de Dongo, la prison centrale de Kungu et enfin le bâtiment administratif du territoire de Kungu. Mis en œuvre par le PNUD, ce projet a également permis la création de 825 emplois temporaires.
Oui, un grand merci à Florence Marchal pour toutes ces informations partagées avec nous. Nous nous rendons tout de suite à Goma pour retrouver le capitaine Kassim pour une présentation de la situation sécuritaire dans les différentes provinces du pays. Goma, vous avez le micro, la parole est à vous.
Oui, merci. La situation sécuritaire dans la ville, province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la RDC a été jugée calme durant cette semaine. Dans les provinces de Haut et de Bas-Ouélé, les FARDC, appuyés par la force de la MONUSCO, dans le cadre de l'opération dénommée Red Kite, poursuivent la traque des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur. Selon les informations reçues le 2 novembre par des sources concordantes basées dans la localité de Bili, située à 325 km au nord-ouest de Bouta, province de Bas-Ouélé, les éléments de la NRA ont attaqué le 31 octobre les villages de Diazaï et de Balaï, où ils ont kidnappé 8 individus et violé une fille. A cet effet, l'armée congolaise a déployé des troupes d'intervention rapide dans la région située à 8 km de Bili-Centre, dans le but de contrôler la zone, dissuader toute nouvelle attaque dans le secteur et assurer une protection optimale pour les populations civiles. En Éthiopie, la situation sécuritaire a été caractérisée dans le territoire des Romou et de Mambasa par des opérations militaires menées par l'armée congolaise avec le soutien de la force de la MONUSCO, respectivement contre les milices du Front de résistance patriotique de l'Éthiopie et ceux du groupe Mai Mai. Dans le territoire de Mambasa, les troupes des FARDC soutenues par la MONUSCO poursuivent leur opération contre les éléments du groupe Mai Mai, auteur de multiples activités négatives dans cette partie de la province de l'Éthiopie. Les troupes des FARDC ont mené pendant la période sous examen des opérations rigoureuses contre les éléments du groupe Mai Mai dénommé UPLC dans la région située près de la localité de Lelum. Le bilan qui reste à confirmer fait état de la mort au cours de ces opérations de Mambert Sombadet, le chef rebelle de ce groupe armé. En Nord Kivu, la situation sécuritaire a été jugée imprévisible dans la région de Goma et volatile dans d'autres territoire de cette province où l'armée congolaise poursuit, avec le soutien de la force de la MONUSCO, des opérations contre les groupes armés. Dans la région de Goma, des activités négatives perpétrées par des éléments armés contre les populations civiles et les casques bleus de la force de la MONUSCO a été rapportée pendant la période sous examen. Le 6 novembre, des éléments non identifiés ont tiré sur deux motocyclistes en déplacement de Sake vers Goma, tuant sur le champ l'un d'entre eux et blessant grièvement l'autre. Dans le territoire de Bini et de Butembo, les forces de défense et de sécurité congolaises soutenues par la force de la MONUSCO ont mené des opérations contre les éléments des groupes armés, notamment l'Alliance des forces démocratiques et les Mai Mai, dans le but de contrer leur activité négative, de restaurer l'autorité de l'État et de sécuriser les populations civiles. Le 31 octobre, environ 50 éléments du groupe Mai Mai munis d'armes blanches ont attaqué le bureau de la police nationale congolaise, déployé dans la localité de Mangina, située à 20 km au nord-ouest de Bini. Les agents de la FNC ont repoussé l'attaque, tué 3 assaillants, capturé 3 autres et blessé plusieurs d'entre eux. Le 2 novembre, des éléments supposés appartenir à l'ADR ont attaqué la localité de Kadedewe, située à 12 km à l'est de Mavili, et tué 2 agriculteurs. Le 3 novembre, les FARDC ont lancé une opération de grande envergure contre les éléments du groupe Mai Mai, dénommé Corps de Christ, et leurs alliés basés sur le Mont Carmel, situé à 10 km à l'est de Butembo, engager les insurgés, déloger ces derniers et occuper la région. Dans le territoire de Walikali, des opérations conjointes MONUSCO-FARDC ont été lancées avec succès du 3 au 6 novembre dans les régions de Mbété et de Kalembe, situées respectivement à 22 et 30 km à l'est de Pinga. Dans le but de contrer la menace posée par les éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, de dominer le terrain, rassurer et protéger les populations civiles. Dans le territoire de Rutshuru, l'armée congolaise soutenue par la force de la MONUSCO a poursuivi ses opérations contre les éléments des différentes factions du groupe Mai Mai, notamment Mazembe et Niatura, dans le but de mettre un terme à leur activité négative perpétrée contre les populations civiles. En effet, le 2 novembre, les troupes des FARDC ont lancé une opération contre les positions du groupe Mai Mai Mazembe, situé près de la localité de Kibirizi, à 17 km au nord-est de Nyanzale, et tué 5 insurgés. Au chapitre de reddition dans la province, du 2 novembre à ce jour, 11 éléments du groupe armé se sont rendus aux troupes de la force tunisienne, déployées dans la province. Il s'agit de 5 Niatura, 1 des FDLR, 1 des Mai Mai Mazembe et 4 de différents groupes Mai Mai. Pour ce qui vaut, les forces tunisiennes et congolaises continuent de maintenir sous leur contrôle l'environnement sécuritaire, et ce, nonobstant l'activisme de quelques groupes armés rapportés pendant la période sous examen. Tanganyika, la situation sécuritaire est volatile et marquée par des accrochages liés aux conflits interethniques entre les communautés Luba et Pygmy. Le 3 novembre, des éléments supposés appartenir au groupe Maïma et Pygmy ont attaqué et pillé la localité de Gwakanga, située à 45 km au nord de Manono Centre. Plusieurs maisons ont également été incendiées. Cet incident a provoqué le déplacement des populations civiles vers Manono Centre. La force de la MONUSCO surveille étroitement la situation sécuritaire dans cette partie du pays, dans le but d'apporter en cas de nécessité son appui aux troupes des FARDC présentes dans le secteur. Enfin, la force de la MONUSCO a mené 1149 patrouilles armées, dont 364 nocturnes, et fourni 68 escortes pendant la période sous examen. Merci beaucoup.
Merci au capitaine Kassim pour ce survol exhaustif de la situation sécuritaire dans les différentes provinces du pays. Je vous rappelle tout simplement qu'à Goma, nous avons le colonel Pierre Hué qui pourra prendre en compte les questions d'ordre sécuritaire. Mais tout de suite, nous revenons ici à Kinshasa pour prendre deux questions, une à gauche, une à droite, de préférence.